Alors je vous propose d'entendre un récit de l'Évangile selon Luc, où Jésus a déjà 12 ans en fait, et où on va voir un petit peu comment il peut grandir, progresser. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Cette année-là, Jésus a 12 ans, ils étaient montés donc à Jérusalem pour la Pâque et la famille de Jésus le perdent dans la foule. Ils le cherchent partout. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des théologiens, à les écouter et à les interroger. Tous ceux qui l'entendaient étaient épatés par l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent dans l'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois ton père et ta mère, nous te cherchons partout avec angoisse. » Il leur dit « Dans quel but me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour retourner à Nazareth. Il leur était respectueux et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Et c'est ainsi que Jésus progressait en sagesse et en taille et en grâce auprès de Dieu et auprès des humains. Alors je vous propose de reprendre ce texte un petit peu ligne à ligne. Ça commence donc, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et donc c'est une démarche religieuse qui demande bien sûr un effort très concret. Peut-être que nos parents, peut-être que vos parents vous ont ainsi initié à un certain nombre d'exercices pour être en forme dans votre vie, comme par exemple de nous brosser les dents un peu régulièrement, d'apprendre à dire bonjour, à dire merci, et puis d'aller de temps en temps à l'église ou à la synagogue, au moins pour les grandes fêtes, comme la famille de Jésus. En tout cas, comme adulte, c'est notre propre choix d'avoir ainsi quelques exercices très concrets pour exercer notre être intérieur à notre rythme, quelle que soit notre religion ou quelle que soit notre philosophie. Et si on ne le faisait pas d'avoir ainsi des exercices? Eh bien, pour ce qui est du corps, on a le droit d'être en bonne forme même si on ne fait rien pour ça. Si on ne fait pas un peu d'exercice physique, si on ne mange pas les fameux 5 légumes et 5 fruits par jour. On a le droit aussi d'avoir des super bonnes dents, aucune carie, sans jamais se brosser les dents, mais en général quand même, ça aide de prendre soin de notre corps. Ben de même pour notre être intérieur. C'est ce que fait la famille de Jésus, comme des milliards d'autres familles qui se bougent un peu afin de faire meilleure place, bonne place à Dieu dans leur existence. Cet exercice, ça consiste d'abord à sortir de chez soi. Ça semble pas grand-chose, mais c'est déjà un premier point essentiel. Parce que quand on sort de chez soi pour faire un exercice spirituel, eh bien déjà on se prépare à évoluer, et puis ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur notre vie quotidienne, ses soucis, ses préoccupations, et sur notre course en ce monde. D'ailleurs, le terme même de Pâques, dans l'hébreu de la Bible, ça évoque l'idée de franchir une étape, de traverser quelque chose. Et le terme même d'église, ça ne signifie pas communauté, comme on le dit parfois, ça signifie littéralement être appelé au dehors. En effet, ecclésia en grec, ça vient de ex, hors de, et puis de klésia, kaléo, qui veut dire être appelé. Et donc c'est Dieu qui nous appelle à sortir de notre quotidien quelques moments, à sortir de notre bulle, et puis de faire un détour à son appel pour un moment, avant de revenir ensuite dans notre vie quotidienne, auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès de notre travail peut-être, mais en ayant franchi une étape. Après avoir été un peu grandi comme Jésus dans ce récit. Et donc Jésus et sa famille, ils montent à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Alors Jérusalem, ça signifie en hébreu encore la source de la paix. Et le temple se dit en hébreu la maison de l'Éternel. Alors il s'agit bien entendu de symboles. C'est ce que Salomon, quand il a construit le temple de Jérusalem, remarque, reconnaît quand il inaugure ce temple qu'il vient de construire. Il dit que l'univers entier ne suffit pas, est trop petit pour contenir Dieu, et que Dieu n'est pas plus là ou ici qu'ailleurs, il est partout. Dieu est présent dans la louange du fidèle, nous dit le psaume. Et toute la terre, chaque mètre carré où se tient les pieds d'une personne qui prie Dieu, c'est ce mètre carré sous les pieds de celui qui prie est une terre sainte. Salomon reconnaît que l'intérêt de ce temple, c'est seulement d'aider l'humain à penser à Dieu, à prier Dieu, à se recentrer ainsi sur la source profonde de la paix qu'est Dieu, qu'est pas particulièrement Jérusalem au sens géographique. D'ailleurs, c'est loin d'être la ville de la paix, évidemment. Alors, comme Salomon, nous ne pouvons pas totalement faire l'économie de symboles pour évoquer la présence de Dieu, parce que Dieu est d'un autre ordre, donc c'est par le symbole qu'on est obligé de parler de lui. Et c'est par le symbole aussi que nous pouvons avoir nos exercices qui nous aident à avancer grâce à lui, avec lui, vers lui. Et puis pour en parler ensemble entre nous, comme nous le faisons ce matin. C'est à la fois modeste et essentiel, ces exercices spirituels et ce langage que nous cherchons à avoir pour chercher cet essentiel. Alors la famille de Jésus fait donc régulièrement cet exercice spirituel d'aller à Jérusalem, au temple, pour la Pâque, puis ils retournent chez eux à Nazareth. En effet, il n'est pas question de rester tout le temps en prière, il est encore moins question de rester tout le temps à l'église, dans la religion, bien sûr. C'est comme une respiration, un temps pour se laisser inspirer, et puis ensuite un temps pour vivre dans ce monde, comme le disait la jolie parabole de mon collègue prêtre, frère dominicain. C'est une respiration entre Dieu et ce monde, avec notre métier, notre famille, nos loisirs, nos engagements. Alors, qu'apporte l'exercice religieux ? Eh bien, ça nous permet de nous rappeler que nous avons la possibilité, que nous avons le privilège de pouvoir prier Dieu, que nous avons notre mot à dire même devant Dieu, et surtout devant Dieu. Ensuite, le temple, c'était un endroit, un lieu de culte où ils offraient à Dieu leur prière, un sacrifice peut-être, et ce geste d'offrir quelque chose nous rappelle qu'il y a plus grand que nous dans l'univers, que je ne suis pas personnellement le nombril de l'univers, même si j'ai un nombril, c'est pas le nombril de l'univers, il y a plus grand que nous et Dieu et nous ne sommes pas abandonnés. Alors enfin, ces fêtes, ou bien le culte, la messe, la réunion à la synagogue ou chez les Baha'is, eh bien, c'est une occasion de rencontrer d'autres personnes qui, elles aussi, sont sorties de leur réduit à l'appel de Dieu. C'est ainsi que Jésus rencontre des théologiens dans le temple. Et cette rencontre avec des théologiens, en ce lieu, le temple, eh bien, associe la théologie et la prière. Je crois que c'est excellent d'associer tous les deux, la théologie et la prière, la réflexion et la relation personnelle avec Dieu. En effet, la prière sans théologie présente le risque de nous mener n'importe où. Et puis, la théologie sans prière est trop sèche. Jésus associe les deux, et donc il est assis au milieu des théologiens. Ils sont donc tous au même niveau, assis. Celui qui a le plus de, connaissances comme celui qui apprend, comme Jésus à ce moment-là. Tous ont une dignité égale devant Dieu. Et par ailleurs, effectivement, c'est grand d'avoir réfléchi, d'avoir travaillé les textes, d'avoir étudié, mais c'est grand d'une autre façon, peut-être même plus grand, de chercher à apprendre et à réfléchir. Donc Jésus les écoutait et les questionnait, ces théologiens. Et effectivement, dans une discussion, ce qui est intéressant, ce qui a une chance de nous faire grandir, progresser, c'est d'écouter l'autre, puis de garder ensuite ce qui va nous apporter quelque chose. C'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui avec des croyants de différentes religions. Ce n'est pas pour chercher à convertir l'autre, ça n'aurait pas grand intérêt, mais c'est pour écouter l'autre. Et c'est ainsi que, nous dit le texte, tous étaient frappés par l'intelligence des réponses de Jésus. Alors c'est curieux parce que qu'est-ce que Jésus répond à ce que lui enseignent les théologiens ? Eh bien, nous venons de le voir, de l'entendre. Il les écoutait et puis ensuite il leur répondait en les interrogeant. Eh bien, c'est intelligent car nous avons plutôt tendance à répondre aux autres en disant notre propre point de vue et peut-être n'ayant même pas tellement écouté ce que disait l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on avance, évidemment. Alors que là, Jésus, il écoute l'autre, il interroge les autres, et ensuite il fait preuve d'intelligence. Le terme grec pour parler de ça, c'est « synesis ». C'est le fait de rapprocher des éléments différents. Et c'est effectivement comme ça qu'on grandit, en s'intéressant, en questionnant les autres et en se questionnant soi-même, et puis en faisant ainsi son propre miel, librement et intelligemment. Ce récit nous dit que c'est ainsi que Jésus progresse, que c'est ainsi qu'il grandit en sagesse et en élévation. C'est ainsi qu'il progresse en grâce auprès de Dieu, dans sa relation personnelle à Dieu, et en grâce auprès des humains, c'est-à-dire dans une vraie bonne relation avec les autres. Et c'est ainsi, après avoir progressé, eh bien, il retourne vivre sa vie dans sa famille. Seulement, en chemin, il a grandi un petit peu. Que Dieu nous bénisse ainsi. Amen.